Dans l'Antiquité, on traitait les minéraux dans des creusets chauffés à blanc afin d'en obtenir le métal. Ce processus purificateur permettait d'éliminer les scories, le résidu inutile. Or, dans les Écritures, le creuset est une image de l'épreuve et aussi du jugement. Je continue à lire dans le chapitre 9 du livre de Jérémie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées célestes. Voici, je vais les fondre au creuset de l'épreuve, car que ferai-je d'autre avec la communauté de mon peuple? Verset 6. Dieu appelle, il envoie ses prophètes et il attend et attend encore que le pécheur se repente. Mais une fois sa patience épuisée, il intervient et quelquefois le châtiment est sévère. Je continue plus loin en compressant. « Je ferai de Jérusalem un monceau de décombres, un gîte de chacals. Des villes de Juda, je ferai une terre dévastée sans habitants. L'Éternel déclare, tout cela leur arrive parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais placée devant eux et ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas fait ce que je leur ai dit. » Mais ils se sont conduits selon les penchants de leur cœur, et ils se sont attachés au Baal que leurs pères leur ont fait connaître. Versets 10 à 13. Au lieu d'enseigner à leurs enfants la loi de l'Éternel, les parents les initiaient au culte des fausses divinités, un péché particulièrement grave. Je continue. Voilà pourquoi le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, le déclare. Je vais faire avaler de l'absinthe à ce peuple et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Verset 14. L'absinthe est une plante très amère, non combustible. L'absinthe est une plante très amère, non comestible. Cette image décrit le siège de Jérusalem, la prise de la ville, puis l'exil. Je continue plus loin en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez ces choses. Convoquez les pleureuses et faites-les venir. Envoyez appeler celles qui sont habiles à la lamentation et qu'elles viennent. Oui, qu'elles se dépêchent pour prononcer sur nous leurs cris plaintifs et que nos yeux fondent en larmes et que les pleurs ruissellent de nos paupières. Ô femmes, écoutez la parole de l'Éternel et ouvrez vos oreilles pour entendre ce que sa bouche a dit. « Enseignez à vos filles une complainte et que chacune apprenne à sa meilleure amie une lamentation. » Versets 16 à 17 et 19. En Israël, certaines femmes étaient spécialisées dans l'art de pleurer, de se lamenter et de chanter pour exprimer le deuil de la famille. On les louait afin de multiplier les manifestations bruyantes de la douleur par lesquelles les peuples orientaux honorent leurs morts. Ces lamentations avaient leur rituel et leur formulaire bien codifiés. Le père de l'Église, Jérôme, décrit ces femmes entonnant leurs chants funèbres, la poitrine nue et les cheveux épars. Ici, lugubre ironie, c'est pour leurs propres funérailles que les habitants de Juda doivent convoquer les pleureuses. De plus, Jérémie invite les femmes à apprendre ce métier car c'est le seul qui sera utile au vu de la catastrophe imminente. Je continue. « Oh, la mort a surgi, grimpant par nos fenêtres pour pénétrer dans nos belles maisons et faire disparaître les enfants de la rue et les jeunes des places. Proclame-le, voici ce que déclare l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont sur le sol et resteront par terre comme du fumier dans les champs, comme des gerbes que les moissonneurs laissent et que personne ne ramasse. » Versets 20 et 21. Le moissonneur coupe les épis avec la faucille, puis les jette derrière lui afin qu'ils soient ramassés par l'ouvrier qui le suit. Les hommes tués seront semblables à des javels, des brassées de céréales jetées à terre par la grande moissonneuse, la dame à la faux, et il n'y aura personne pour inhumer tous ces cadavres. Je continue. L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Versets 22 et 23. L'apôtre Paul s'inspire de ce passage quand il dit, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. L'homme orgueilleux place sa confiance dans sa propre sagesse, son statut social, sa puissance et ses richesses. C'est très répandu, surtout parmi les gens influents. Pour les stars, les politiciens et les hommes d'affaires, les valeurs morales et le caractère n'ont guère d'importance, car ce qui compte pour eux, c'est le pognon et le pouvoir. Il y a belle lurette qu'ils ont mis Dieu sur la touche et l'ont remplacé par eux-mêmes, la science ou quelque chose d'autre. Quant au petit peuple, ses idoles sont l'alcool, la fesse et le sport. Est-ce que j'exagère ou suis-je en dessous de la vérité? Je sais bien que ce n'est pas en m'exprimant ainsi que je vais obtenir les félicitations du jury. Mais je me range aux côtés de Jérémie et je conteste toutes les philosophies humanistes modernes. En toute occasion, le seul appui sûr, c'est une foi personnelle en Jésus-Christ. Et la vraie sagesse consiste à se confier en lui, à vivre de façon intègre et à manifester de la bienveillance à l'égard d'autrui. « Aime ton prochain comme toi-même », disent les Écritures. Je finis le chapitre 9. « Or, le temps vient, déclare l'Éternel, où moi j'interviendrai contre le circoncis incirconcis, ceux qui sont circoncis seulement dans leur corps, contre les Égyptiens, les Judéens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites et tous les habitants des abords du désert qui se rasent le haut des joues, car toutes ces nations ne sont pas vraiment circoncises, de même que tous les Israélites. Elles ont le cœur incirconcis. » Versets 24 et 25. Selon l'historien grec Hérodote, certaines tribus arabes se coupaient les cheveux en rond et se rasaient le tour des tempes en l'honneur de Bacchus. Cette pratique était évidemment interdite par la loi de Moïse. Jérémie fustige à nouveau l'idolâtrie et le formalisme religieux de ses contemporains. Ce n'est pas la circoncision de corps qui compte, mais celle du cœur. Dans le chapitre suivant, Jérémie s'attaque à nouveau à l'idolâtrie dont il fait ressortir l'absurdité. Je commence à le lire. « Au peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'imitez pas le comportement des nations et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même si les nations en sont saisies de peur. » Versets 1 et 2. Les païens adoraient les astres comme le soleil, la lune, les étoiles et les planètes du système solaire qu'ils confondaient avec leur divinité. Ils interprétaient les phénomènes célestes, les éclipses, le positionnement des astres, le passage des comètes comme étant un bon ou mauvais présage sur le déroulement des événements terrestres. Aujourd'hui, nous avons les signes du zodiaque, l'horoscope, le thème astral, les diseuses de bonne aventure et je ne sais quoi encore. Il n'y a donc guère de différence entre le français moyen et son homologue babylonien. Je continue. Les coutumes des autres peuples ne sont que du néant. Leur dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'or ou d'argent, un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent parler, il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas, ils ne font pas de mal et ils ne peuvent pas non plus faire de bien. Versets 3 à 5. Les idoles étaient soit une moulure de métal, soit une statue taillée dans du bois puis enrichie d'or et d'argent un peu comme les Bouddhas et les divinités hindoues aujourd'hui. Pas de différence. Comme le dit si ironiquement Jérémie, leur place est dans un champ de concombres à côté de l'épouvantail de service. Imaginez quelqu'un décorant un arbre de Noël et ensuite se mettant à plat ventre devant lui pour l'adorer. Voilà en gros ce que faisaient les habitants de Juda. Nous, on a évolué et on ne fait pas des choses pareilles. Nous sommes une société de consommation moderne qui avons remplacé les statues muettes par toutes ces choses que nous achetons pour nous divertir et tuer le temps et ne pas mourir d'ennui. Je continue le texte en compressant. Personne n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc ne te révérerait pas, roi des nations? On doit te révérer, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le seul Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Versets 6 à 7 et 10. Ces affirmations n'étaient pas superflues, mais plutôt l'expression d'une foi héroïque, car à cette époque, la puissance d'un dieu se mesurait à la prospérité du peuple qui invoquait son nom. Comme Israël allait partir en captivité, l'Éternel allait paraître bien inférieur aux divinités babyloniennes. Cependant, l'Éternel, qui a créé et contrôle tout, est le seul Dieu éternel. Le seul Dieu vivant et digne de confiance est le seul devant qui tout l'univers tremble. Je continue. Vous leur direz ceci. Les dieux qui n'ont créé ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus cette terre et de dessous ce ciel. Verset 11. Ce verset n'est pas écrit en hébreu, mais en araméen, la langue internationale de l'époque. Ce changement soudain de langue donne au texte un regain d'énergie. Jérémie dicte aux Israélites captifs qu'ils devront dire aux Babyloniens que leurs divinités sont impuissantes et qu'elles seront anéanties, ce qui sous-entend que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Je continue en compressant. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse et il a déployé le ciel par son intelligence. Combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob. Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Versets 12 et 16. Les habitants de Juda étaient le peuple choisi qui appartenait en propre à l'Éternel. Et donc, sont bien précieux. Les nations se partagent la terre, mais le privilège d'Israël est de posséder l'Éternel comme son Dieu. Je continue plus loin. « Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains, et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. » Verset 23. Jérémie exprime ici son besoin du soutien de Dieu. Par nature, l'être humain n'est pas capable de diriger correctement sa vie et ça se voit dès l'enfance. Quand notre fille aînée avait 3-4 ans et que nous sortions, il ne fallait pas la quitter d'une semelle parce qu'elle ne savait pas ce qu'était une ligne droite et partait dans n'importe quelle direction. Finalement, on a été obligé de lui mettre un harnais afin de ne pas la perdre en route. Aujourd'hui, notre monde est dans un triste état. À chaque seconde ont lieu les pires atrocités, et les injustices ne sont pas sanctionnées parce que nous avons abandonné les préceptes que Dieu nous a donnés dans sa parole. Ceux qui nous dirigent ne savent pas distinguer l'endroit de l'envers, le vrai du faux et le bien du mal. Et toute leur sagesse se résume à « vas-y comme je te pousse, je suis le meilleur et je me remplis les poches ». Je finis le chapitre 10. « Châtie-nous, Éternel, mais avec équité et non pas avec colère pour ne pas nous détruire presque totalement. Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les nations qui ne t'invoquent pas, car ils ont dévoré, oui, dévoré Jacob jusqu'à l'exterminer et ils ont ravagé le lieu de sa demeure. » Versets 24 et 25. Jérémie se déclare solidaire de son peuple. Il comprend que Dieu doit sévir, mais il implore sa miséricorde sur lui et demande à ce que sa colère se déverse sur les Babyloniens qui vont attaquer Israël avec furie et sans mesure. Le chapitre 11 constitue un nouveau sermon assez similaire au précédent. Il semble qu'il ait été donné après que le grand prêtre ait découvert dans le temple un exemplaire de la loi de Moïse. Je commence à le lire. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. « Écoutez donc les clauses de cette alliance. Tu les énonceras pour les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. » Versets 1 et 2. Jérémie va exposer le contenu du contrat d'alliance que l'Éternel avait établi avec les ancêtres du peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte et que le bon roi Josias avait récemment ratifié. Le prophète va passer en revue différents articles qui conditionnent la vie de tous les jours et en particulier les relations de l'homme avec Dieu et avec son prochain. Je continue le texte. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui ne respecte pas les termes de l'alliance que j'ai prescrite à vos ancêtres lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, de ce creuset de fer, et que je leur ai dit, écoutez-moi et appliquez tout ce que je vous prescrirai, et vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Versets 3 et 4. Le creuset de fer est une métaphore qui illustre la dureté de l'esclavage enduré par les Hébreux des siècles auparavant en Égypte. L'alliance prévoyait la bénédiction du peuple s'il obéissait à la loi et la malédiction dans le cas contraire. Tous ceux qui reçoivent la connaissance de la parole de Dieu sont responsables de s'y soumettre. C'est pourquoi il vaut mieux être un païen pur et dur, perdu au fond de la brousse, qui rende un culte aux esprits de la forêt, que de fréquenter une église où la bonne nouvelle est annoncée et de lui rester indifférent. Le jugement de Dieu sera plus sévère pour celui qui joue la carte de la religion que pour l'animiste moyen. Je continue le texte plus loin. L'Éternel ajouta, « Les habitants des villes de Juda et de Jérusalem préparent un complot. » Verset 9. Le peuple de Juda était triplement coupable. Il résistait délibérément aux appels pressants à la repentance de Jérémie. Il s'obstinait à offrir un culte aux idoles et choisissait de croire le message de paix propagé par les faux prophètes. De plus, certains chefs juifs incrédules avaient fait un pacte pour s'opposer à toutes les réformes religieuses entreprises par le bon roi Josias. Je continue plus loin. « Autant tu as de villes, autant tu as de dieux, Juda, autant tu as de rues, Jérusalem, autant tu as dressé d'autels à l'infamie, des autels pour offrir des parfums à Baal. » Verset 13. L'idolâtrie était tellement répandue qu'il existait des fausses divinités pour chaque ville et un autel qui leur était dédié à tous les carrefours, un peu comme dans les campagnes françaises très catholiques, où on trouve un crucifix à chaque croisée de chemin. Je continue plus loin. « Pourquoi ma bien-aimée vient-elle dans mon temple pour agir avec fourberie? La viande consacrée pourrait-elle détourner le châtiment ? C'est quand tu fais le mal que tu te réjouis. » Verset 15. Jérémie dénonce à nouveau le formalisme religieux des Israélites qui offrent des sacrifices à l'Éternel tout en pratiquant l'idolâtrie et s'adonnant au mal. Je continue plus loin. « L'Éternel m'en a instruit, il m'en a informé, il m'a fait voir ce qu'il tramait. » Verset 18. Ici commence la première confession de Jérémie dans laquelle il va exprimer ce qu'il lui en coûte d'être le porte-parole de l'Éternel. Cette entrée en matière a pour but d'éveiller l'attention du lecteur qui ne sera informé que progressivement du complot meurtrier que les habitants d'Anatot, la ville d'origine de Jérémie, complotent contre lui. Je continue. « J'étais comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir, et je ne savais pas que c'était contre moi qu'il concevait de tels projets, disant « Abattons l'arbre pendant qu'il est en sève, venez, supprimons-le du monde des vivants, et qu'on ne s'en souvienne plus !» Verset 19. Jérémie avait prêché la parole du Seigneur un peu partout dans le royaume de Juda, obéissant à l'Éternel qui lui avait dit « Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda » et les rues de Jérusalem. Dis-leur, écoutez les termes de l'Alliance, appliquez-les. Il est probable que certains avaient sincèrement accepté de revenir à l'Éternel. Mais pour l'immense majorité, le prophète était leur mauvaise conscience, donc gênant. La solution consistait donc à le réduire au silence en l'assassinant. Mais il est choquant de constater que ce sont les concitoyens de Jérémie qui veulent l'éliminer, ses amis d'autrefois, ceux avec qui, dans sa jeunesse, il battait la campagne. Mais, comme Jésus l'a dit, un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Et lorsque le Christ prêcha dans la synagogue de Nazareth, sa ville natale, on chercha lui aussi à le mettre à mort. Je continue le texte. « Ô Seigneur des armées célestes, tu es un juste juge, tu es celui qui sonde le cœur et les pensées, que je vois donc comment tu les rétribueras. En effet, c'est à toi que j'ai remis ma cause. » Verset 20. Jérémie implore la protection que l'Éternel lui avait promise. Dieu va le venger parce que c'est lui qui est offensé en la personne de son serviteur. Je finis le chapitre 11. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel au sujet des hommes d'Anathoth qui veulent te tuer et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, sinon nous te tuerons ». Oui, c'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais sévir contre eux. Leurs jeunes gens périront par l'épée. Leurs fils et leurs filles mourront par la famine, et il n'en restera aucun. Je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth dans l'année de leur châtiment. Versets 21 à 23. Jérémie a fidèlement annoncé le message que l'Éternel lui avait donné, mais il y a laissé des plumes, et si Dieu n'était pas intervenu, il y aurait laissé sa vie. L'obéissance à Dieu peut mener au sacrifice suprême. Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera.